Était toujours accompagné d'un chien. Et Mahomet le note pour dire qu'au fond, nous ne savons pas, personne ne sait s'ils étaient 5 ou 7, et s'ils sont restés dans la grotte 309 ans, ou plus ou moins. En fait, la période matérialiste, vous savez, d'après certains, dure 360 ans, d'après Platon, d'après Ezekiel 390, là c'est 309, mais en précisant qu'on ne sait pas exactement le décompte. Mais par contre, il y a toujours le chien avec eux. Il y a toujours cette symbolique. Les témoins vont se trouver également dans cette 18e, et notamment le témoin qui accompagne Élie, qui accompagne Moïse. Donc, il ne faut pas chercher de chronologie là-dedans, Élie ne viendra qu'au 8e siècle, et Moïse est au 15e, mais enfin, le témoin, l'ange du Seigneur, et qui est appelé le témoin, et qui est donc bien l'un des deux témoins de l'Apocalypse et de la chrétienté, et qui va essayer d'initier Moïse à une ambiguïté, une ambivalence des événements. Enfin, Gog et Magog, la troisième illustration historique, disons, et apocalyptique des Gémeaux, se retrouve également dans cette sourate 18. Elle se termine, en effet, par l'arrivée d'Alexandre, donc au début, en effet, de la période rationaliste grecque. Quand Alexandre fut arrivé entre les deux montagnes où vivait le peuple étranger, où Alexandre lui dirent-ils, Gog et Magog dévastent nos contrées, nous te paierons tribut si tu élèves entre eux et nous quelques barrières. Offrez à Dieu votre tribut, dit le prince, car je tiens ma puissance de lui. J'élèverai pour vous le rempart infranchissable. Apportez-moi du fer pour le squelette du pont, soufflez dessus pour qu'il s'embrase, et recouvrez-le d'airain fondu. Gog et Magog ne purent ni franchir le mur ni le percer, mais quand le temps marqué sera venu, le Seigneur le réduira en poussière, car il faut qu'il en soit ainsi. On voit que la sourate 18, de toute façon, décrit le Gémeaux, sous un aspect pas très joli, d'ailleurs, par le chien, témoin douteux, les terrifiants Gog et Magog. La sourate 19 décrit la Vierge, la sourate 20 décrit le buisson de feu et le serpent des reins. Le serpent bâton. Or, encore une fois, à cette période-là, c'est-à-dire à l'an 1000, précisément, nous voyons renaître ces trois divinités sur la terre entière. C'est le moment où renaissent dans l'Inde les Osins, les oiseaux jumeaux, où renaissent les deux gens dans l'église chrétienne, où renaissent les Apus, les frères Apus Maillard en Amérique du Sud, où renaissent même les Dioscures qu'on trouve dans le symbole des Templiers, des deux frères sur le même cheval, etc. La Vierge qui renaît à ce moment-là n'est pas seulement Marie, mais c'est la déesse des moissons, c'est l'ancienne Vierge, la maîtresse des moissons et du pain par le blé. Et enfin, l'archer qui domine, le nouveau dieu de feu, le nouveau buisson ardent, n'est plus le grand archon des gnostiques, mais c'est le dieu de la croisade, c'est le dieu des combats, de nouveau. C'est aussi la flèche au sommet de la cathédrale. C'est le dieu de la volonté au Japon, c'est le dieu de la guerre et de la volonté, et de la conquête. C'est bien ce dieu que prêche Pierre l'Ermite, Saint Bernard. C'est-à-dire que les hommes, à ce moment-là, adorent des dieux disparus, sans puissance, et qui ne peuvent pas compenser le départ du dieu d'amour. Et Mahomet se moque d'eux dans la 21e sourate, c'est-à-dire après les trois que je viens de décrire, en disant « Vous et vos dieux, vous êtes le charbon de l'enfer, ils y brûleront, preuve qu'ils n'étaient pas des dieux. » Et il dit encore plus étrangement, ces dieux que vous adorez ne vous reconnaîtront même pas au jour du jugement dernier parce qu'ils n'apprécient même pas les rites que vous leur rendez. Donc tout ce que vous faites c'est pour rien parce qu'ils sont d'une part ils sont inexistants et quand ils ressusciteront ils ne vous reconnaîtront pas parmi leurs adorateurs parce que précisément ils ne seront pas à ce moment-là des idoles mais des dieux vivants. Les intérims de Mahomet sans faille est toujours effrayant, mais il est cette horizon toujours effrayant, mais d'une clarté absolue. Alors, il y a la première image là dans la sourate 21 aussi de quelque chose qui va s'expliquer. leurs approches des hommes seront comptées. Au temps qui se recloie va succéder le temps qui se déroule. C'est l'image d'Ézéchiel. Mais un jour de nouveau, les cieux se retoieront comme les pages du livre sous les doigts de l'ange Saël. Si les lettres vont dans le sens du temps qui se retoie, c'est-à-dire du temps cyclique, du devenir vers le devenu, du soir vers l'aube, du renouveau, de la catastrophe de la, et des mêmes étranges refus de l'homme et, ou absence des dieux, il y a un autre sens qui va, lui, de la cause vers l'effet, c'est-à-dire à l'inverse, qui va du passé vers l'avenir. Et là, c'est comme si l'histoire se déroulait. Elle ne se retoie pas dans l'éternel retour, elle se déroule. Donc elle est dans le sens inverse de la première figure. On retrouve encore là, dans la toile suivante, l'image de l'arbre. La lumière naît de l'arbre béni qui n'est ni de l'Orient ni de l'Occident, dont l'huile s'enflamme avec ou s'enflamme, lumière sur lumière, et d'où renaissent les éternels rayons. C'est l'aigle, c'est l'arbre aux 12 fruits de l'Apocalypse, évidemment, mais bon, c'est autre chose. La période, donc, s'est achevée par la 25e sourate, qui s'appelle le Coran, dans l'originalité, et qui porte la période 1078-1097. Or, en 1094, Al-Mostanzir Bila, le dernier imam Fatimine, meurt. Encore une fois, pose un problème de succession. Le fils de Mostanzir a été éliminé, il est d'ailleurs assassiné 2 ans plus tard, comme souvent initialement dans ces cas-là, c'est-à-dire en 96, nous arrivons bien à la fin de la période. Et à partir de ce moment-là, il y a un autre schisme dans l'islam entre les Fatimines orientaux et les Fatimines occidentaux. Là, c'est exactement la même chose qui se produit dans l'Inde, autour du grand prophète hindouiste Ramanuja, dont les élèves se sont partagés, je vous l'ai dit déjà, entre les orientaux et les méridionaux, les nordiques et les méridionaux. L'une des branches se fonde sur la liberté de l'homme, et l'homme doit se préparer à la vivre en instituant une république où tous seront frères, sous les gémeaux, égaux dans la balance et libres dans le verseau. À cette branche messianique, les juifs en Occident, les brahmanes dans l'Inde apportent leur soutien, car une telle égalité ne se peut concevoir hors du culte justice Yahvé ou Brahma, dans le Coran la lettre T. Ou bien l'esprit sera la liberté de Dieu que n'imiteront plus ni la justice ni l'amour. Cet esprit libre imposera donc à l'homme une existence plus haute que la miséricorde et la loi. Dans le premier cas, l'homme doit s'arracher à Dieu, voie irrationnelle, pour réaliser son destin, tendance occidentale du schisme. Dans le second cas, l'homme doit s'attacher à Dieu comme le singe à sa mère et ne rien vouloir que l'esprit ne veuille, la tendance orientale. Ce drame aussi, Mohamed l'a prévu. Il ne trouve pas d'autre parade que le Coran, livre de la balance, mais aussi de l'harmonie. Car vos dieux vous ont démenti, ils vous laissent sans secours et sans protection. En réalité, ils font plus, et ces dieux dépassés, ils dressent les uns contre les autres les hommes, comme parle encore depuis le Christ. En fait, cette année 1096, où meurt l'imam Nizar, et qui est la fin de la soirée 25, le Godefroy de Bouillon entreprend la première croisade. Les chrétiens et les musulmans s'affrontent, alors c'est pour la première fois. Ils ne s'opposent plus seulement comme les deux branches d'un schisme, mais comme deux empires, l'un veut détruire l'autre. Je détaille l'événement, mais là je n'aurai quand même peut-être pas le temps de détailler. Disons que ce sont des périodes où les sourates font pour la première fois souvenir au combat, à la guerre. Je vous ai annoncé vos schismes et vos divisions, dit à ce moment-là Mahomet. Mais en même temps qu'il annonce ces combats, continue de prêcher le même ésotérisme et le même secret. Béni soit celui qui ordonne le cours des constellations, du flambeau des jours et de l'astre des nuits, signe de sa puissance. TS, ces signes, ces caractères sont les signes du Coran qui enseigne la juste doctrine. TSM, ces lettres sont les signes de l'évidence. Vous plaignez d'être dans la nuit tantôt et tantôt dans le jour. Dis, qu'en serait-il si Dieu étendait sur vous une nuit sans limite, jusqu'au jour de la résurrection? De quel autre Dieu espéreriez-vous la lumière? Et s'il étendait sur vous le jour inflexible jusqu'au jour du grand nouveau, de quel autre Dieu devriez-vous attendre le repos de la nuit? La demeure dernière, nous la réservons pour ceux qui n'attendent sur terre ni le fanatisme de l'ordre, ni la tentation du désordre, au seul fidèle. Et là est peut-être la prophétie la plus extraordinaire, je trouve, du Coran, sera proprement inconcevable. On retrouve, pour 4 sourates, 29, 30, 31, 32, les trois lettres ALM, et qui ont caractérisé la nature parfaite, le temps de Dieu, le temps du royaume, la doctrine du cœur. Elles vont de 1154 à 1230. Historiquement, ça s'ouvre par la grande résurrection d'Alamu, 1164, et qui annonce le renouveau de Dieu. Elle va être sur la terre entière le dernier temps des saints. Pratiquement, il n'y a pas eu de saint depuis l'an 1000, les derniers papes saints, les derniers papes moines. Il n'y a pas de grands saints, ou alors des saints guerriers comme saint Bernard, comme ça. Là, on va avoir dans le monde entier une multitude de saints, pour ne parler que de l'Occident. C'est le temps des premiers templiers qui sont des saints. C'est le temps de Saint-Dominique, c'est le temps de Saint-François d'Assise, c'est le temps de... Et c'est le temps des prophètes chrétiens, soit Sainte-Flore, Saint-Hildegarde, Saint-Brigitte, Saint-Fléchilde, la bienheureuse Angèle, la quête du Graal cistercienne. Et c'est dans l'islam le temps où vont vivre les 4 plus grands prophètes après Mahomet, les 4 plus grands prophètes d'islam, c'est-à-dire Shawwardi, fondateur des Ishraq, que Saladin fera supplicier en 1191, Rumi, fondateur des Derviches, Ibn Arabi, le grand mythologue de l'islam, et merveilleux Attar, dont l'entretien des oiseaux rivalise avec les mille et une nuits. Les mille et une nuits qui s'écrivent d'ailleurs essentiellement là aussi. C'est vraiment un renouveau, c'est vraiment une éclosion, une sorte de chant du cygne de la chrétienté, de l'amour. Personne n'a jamais parlé de l'amour dans l'islam comme Ghazali ou comme Attar à cette époque-là. Le voyage, l'entretien des oiseaux, on m'anticutère, est un livre admirable de poésie et de tendresse humaine et divine. Et c'est aussi un livre d'un ésotérisme extraordinaire, puisque initialement il y a 12 oiseaux plus la hutte qui dit les autres oiseaux, comme les lettres du Coran. Les oiseaux se retrouveront 30 à la fin du voyage, nous verrons pourquoi plus tard. Sur ce nombre 22, les 22 lettres de la Kabbale prendront successivement la parole. Au discours du 22e correspondra à la description de la première vallée de la recherche, au 38e chapitre du livre. Suivront les 6 autres vallées de l'amour, de la connaissance, de l'indépendance, de l'unité, de l'étonnement et du dénuement. Avant que survienne le temps de l'esprit symbolisé par le roi des oiseaux Simurgh, lequel n'est autre que les 30 réunis. Nous avons à la fois l'ésotérisme des 12 et 22. Des 30, nous verrons, et des 7 vallées. C'est d'une science d'autant plus extraordinaire qu'à aucun moment elle ne détruit la poésie et la richesse du livre qui semble jaillir du cœur constamment alors qu'il est construit sur une telle science. Beaucoup plus brièvement, le grand théologien arabe Ibn Arabi invente les noms. Il distingue ces noms de la divinité, sans majuscule, du nom de l'ineffable, qui est un des 12, mais qui, quand il est un des 12, recouvre les 12 et les annule. et qui est innommé en dehors de la puissance créative de l'homme, car l'homme atteint lui-même, chaque homme atteint à la divinité qu'il exprime et le formule. C'est-à-dire qu'il y a un lieu qui est non seulement de l'image de Dieu, mais qui est de l'imaginaire. Et le grand prophète supplicié par Saladin, Sowardi, a défini les trois d'une manière tout à fait différente d'Ézéchiel ou de Platon, bien que tout cela se recoupe. Il y a le monde de la lumière vérité, de l'en-soi, qui est le Jabaru, et il y a le monde du créé, le monde des vivants, disait Ézéchiel, qui est le Molk. Et le deuxième monde, l'intermédiaire, qui s'appelle le Malakut, Malakrel, ici, est l'univers du double, de lumière parallèle, du modèle reflet, le monde de l'image, mais aussi de l'imaginaire. C'est ce monde où l'homme reflète Dieu, comme on reflète dans un miroir, mais où aussi on crée le mystère de Dieu par la puissance du poète ou du créateur. À la même époque, dans l'Occident chrétien, des saints comme Bonaventure diront « Dieu est un énigme vu à travers un miroir ». C'est exactement cela qu'exprime Malachie de Sowardi. Monde de l'image et de l'imaginaire, et les commentateurs de l'islam essaieront toujours de comprendre comment les deux sont possibles à la fois, ils essaieront de définir ce lieu étrange. Or, Mahomet, là, le définit très bien par la 31e sourate qui s'appelle Luqman. Luqman, c'était un personnage de l'islam, de la tradition de l'islam, antérieur à Mahomet, et qui racontait les aventures d'un petit génie railleur, malicieux, qui est exactement le Loki de la religion nordique, l'homme scorpion de Sumer, le Taimon de Socrate, le ver intérieur des chrétiens, le dieu de la ténèbre. Et c'est en étudiant cette sourate 31 que les ésotéristes de l'islam, à ce moment-là et pas à un autre, font prendre conscience que le Mahdi attendu, le dernier révélateur, est peut-être un révélateur intérieur à l'homme, une sorte de verbe intérieur qu'ils appellent Ocha, et qui est l'Ocha de Rumi, également le dieu intérieur, le dieu ténébreux de Rumi, et qui sera en Occident, pour les derniers scolastiques, l'archétypus, l'archétypus intellectus, l'intelligence des archétypes. Alors, tout cela expliquerait dans une certaine mesure le Coran jusque-là, jusqu'à ce point-là, n'est-ce pas ? Lorsque Dieu s'éloigne, comme la lumière sortir à la fois de la nuit, la croyance se défait qui se fondait sur le nom majuscule. Il s'éparpille dans la multiplicité de ses noms, comme le bouquet du feu d'artifice ou la gerbe du soleil couchant, ou leur millier d'étincelles. Alors, dans la nuit de Rumi, où l'inconscient d'Arabie commence le voyage inverse, le voyage nocturne, vers le futur Mahdi ou le personnel Ocha, qui est de toute éternité, ou que sera dans le temps, la rencontre à venir du divin et de l'homme, à l'aube du lendemain, à la fin de la nuit. Les royaumes, les empires terrestres, des prophètes chrétiens, les cinq épreuves de Joachim Fleur, les sept vallées d'Attar, ou les huit, sept cieux du voyage nocturne, expriment la même chose. Ce sont seulement les heures de la nuit qu'il faut passer pour atteindre l'aube, l'aurore, pour atteindre le temps de la nouvelle lumière. Mais cette explication ne suffit pas à éclairer le prophétisme du Coran, annonçant dès le 7e siècle, pour cette période précisément, cette floraison d'œuvres d'amour, d'œuvres ésotériques, ce renouveau de sainteté, ce renouveau de présence divine. Or, cet éclaircissement, je crois que deux sourates le donnent, la 30e et la 34e, c'est-à-dire au début et à la fin de cette période. La 30e prédit qu'après la défaite, les Romains connaîtront la victoire dans les pays voisins ou à la frontière de l'islam. Je dois dire que bien les traducteurs, effrayés, absolument effrayés par cette prédiction, d'ailleurs absolument incompréhensible, et déjà dès le début de Mahomet, ou de vers l'an 1000 ou 1200, pouvait renaître. Et ils ont mis les occidentaux, ils ont mis les impériaux, ils ont le peuple. Or, cette période est exactement celle, c'est-à-dire c'est la période 1873-1192, les Romains, marque la renaissance de l'Occident chrétien et particulièrement de l'Empire romain germanique. C'est Frédéric Barberousse, l'empereur immortel, qui règne à ce moment-là, et son successeur sera le plus grand souverain peut-être qui connut l'Europe après Charlemagne, Frédéric II, le premier souverain des temps modernes, pacificateur de la Terre Sainte, le seul empereur à avoir eu les clés de Jérusalem pacifiquement, tandis que d'autres rois légendaires, Richard Cœur de Lion, Saint-Louis, existent au même instant. Mais dans l'espace de quelques années, il se révélera que Dieu est le seul maître avant comme après. Et sous sa sourate, les Romains ne viendront pas à bout de l'islam, dont la défaite la plus terrible sera d'une autre nature. Dans la 34e sourate, Mohammed l'illustre par l'anecdote de la mort retardée de Salomon. De même que le dernier grand souverain, je vais vous citer la sourate d'ailleurs, lorsque Mohammed eut achevé sa vie, les djinns ne s'aperçurent pas qu'il était mort, aussi longtemps que le ver ne rongeait le bâton qui le maintenait debout. L'écroulement du corps leur apprit qu'il n'avait servi que. Or, si Mahomet annonce le retour des Romains à ce moment-là, c'est que, nous le savons par saint Augustin, les anciens ne doutaient pas que Rome répétait les destins de la Syrie. De la même manière que la Syrie s'était achevée en 1600 avant Jésus-Christ, Rome s'était achevée en 500 après Jésus-Christ avec l'écart de 2150 ans. Donc, au renouveau de la Syrie, vers 970 avant Jésus-Christ, devait correspondre à un renouveau de Rome vers 1190. Et en effet, l'Empire romain, le nouvel Empire romain, romain-germanique, durera, ou Saint-Empire romain-germanique, durera jusqu'en 1500 et s'achèvera 2160 ans après la fin de l'ancien nouveau Empire de Syrie. Et si le renouveau de l'Empire romain reproduit la renaissance de la Syrie, c'est bien la fin du royaume d'amour qui est datée de 1260, 2160 ans après la mort de Salomon en 900. Or, de la même manière qu'entre 970 et 900 avant Jésus-Christ, s'étaient situées les plus grandes œuvres prophétiques de l'amour et les plus précises sur l'enchevêtrement des signes, c'est-à-dire les psaumes, le cantique des cantiques de Salomon, l'Odyssée d'Homère, etc. De la même manière, on pouvait prédire des œuvres ésotériques, on pouvait prédire un renouveau de conscience divine. Se revoir dire, répète les psaumes, Attar ou Miflore, répète le cantique des cantiques, il m'arabie, les quêtes du Graal, les voyages des mille nuits, répète l'Odyssée d'Homère. Nous sommes dans un cas caractéristique de croyance en l'éternel retour.